6 le ton d'heure, prochain point avec l'actualité dans 20 minutes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est là, dans la capitale tanzanienne, que l'ONG Médecins du Monde a ouvert en 2011 le premier programme de réduction des risques en Afrique de l'Est. Pays de transit pour le trafic d'héroïne en provenance du Pakistan ou d'Afghanistan, la Tanzanie et les pays voisins sont d'ailleurs devenus petit à petit, à partir des années 90, des pays de consommation. Alors selon un rapport de l'ONUDC, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, 21 tonnes d'héroïne passeraient chaque année par les États d'Afrique subsaharienne, 2,5 tonnes seraient consommées sur place et il y aurait 2 millions d'injecteurs de drogue en Afrique subsaharienne, 25 000 dans la seule ville de Dar es Salaam. Alors pendant des années, la seule réponse apportée à ce phénomène grandissant a été la pénalisation, la condamnation à des peines de prison. Rejetés, stigmatisés, les usagers de drogue n'avaient aucun droit, pas même celui d'ailleurs de l'accès aux soins et la situation devient critique. En 2009, lorsque Médecins du Monde fait une mission d'évaluation sur le terrain, les chiffres sont assez catastrophiques. Alors que le taux de prévalence pour le VIH-SIDA est passé à peu près 5% dans le pays, il atteint le chiffre hallucinant de 67% chez les femmes qui s'injectent de la drogue, 35% chez les hommes. En cause, évidemment, la pauvreté qui mène à la prostitution, à l'échange de seringues entre toxicomanes et à des conditions de vie extrêmement difficiles. En 2011, Médecins du Monde a donc débuté son programme de réduction des risques avec entre autres la distribution et l'échange de seringues. Parallèlement, l'État tanzanien a lancé une politique de substitution à la drogue en permettant l'accès à la méthadone dans 2 cliniques de Dar es Salaam. 2 ans après, quels sont les résultats? Comment ont été perçus ces programmes par les politiques, les médecins, la société civile? Comment pérenniser un tel programme? C'est un reportage d'Igor Strauss.
Je m'appelle Fatouma, j'ai 30 ans et un enfant de 3 ans. J'ai commencé l'héroïne en l'an 2000. Avant ça, je fumais juste un peu de marijuana. Par contre, mon frère, lui, était déjà dans l'héroïne. Et en 2000, ma mère est morte. C'est là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Toutes les nuits, je voyais ma mère. Son cadavre venait me hanter. C'était horrible, je ne dormais plus. Alors je suis allée voir mon frère et je lui ai dit que je voyais maman dans mes rêves et que je n'en pouvais plus. Alors il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais te donner quelque chose qui va t'empêcher de rêver, comme ça tu ne verras plus maman. Tu vas voir, c'est bien meilleur que la marijuana que tu fumes. » Alors mon frère est allé acheter de l'héroïne, il l'a mélangée à de la marijuana et il me l'a donnée. Moi, je ne savais pas que c'était de l'héroïne. J'ai fumé et après je me suis endormie. J'ai dormi toute la nuit et je n'ai pas fait de cauchemar. Je suis donc allée voir mon frère et je lui ai dit que j'avais vraiment bien dormi sans voir maman. Il m'a dit « Tant mieux, c'est bien, ne t'inquiète pas, dorénavant j'aurai toujours quelque chose pour toi. » C'est comme ça que j'ai commencé l'héroïne. Et puis un jour, mon frère est mort. Il fallait donc que j'en trouve auprès de quelqu'un d'autre. Je suis donc allée dans un camp, un endroit où l'on vend et où l'on consomme de l'héroïne pour en acheter. Et au bout d'un moment, je suis devenue complètement accro et je ne quittais plus le camp.
Mais alors aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien de femme toxicomane à Dar es Salaam? J'imagine que ça doit être difficile.
Le gros problème, c'est l'argent. J'ai dû vendre tout ce que j'avais. J'ai vendu ma radio, ma télé pour des sommes beaucoup moins importantes que ce que j'avais déboursé pour les acheter. C'est comme ça que j'ai tout vendu pour des sommes dérisoires juste pour avoir un peu d'argent.
Je vais vous poser des questions très indiscrètes. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que vous vous êtes déjà prostituée pour de la drogue ?
Je n'ai jamais été une prostituée à temps plein qui tapine au bord de la route toute la journée ou toute la nuit. Par contre, il m'est arrivé d'être en manque. Quelqu'un arrive avec de l'argent et me propose une relation. Ça, je l'ai fait plusieurs fois quand j'avais besoin d'argent pour m'acheter de la drogue. Mais jamais à plein temps comme certaines.
Aujourd'hui, vous consommez combien de kété, combien de grammes par jour ?
Moi, je fume des énormes joints dans lesquels je mets 4 kétés, 4 doses d'héroïne. Au bout d'un moment, j'en étais à 24 kétés par jour.
24 kétés par jour, c'est une somme d'argent considérable.
Ça, c'est quand je fumais beaucoup. Maintenant, je fume moins, mais c'est vrai qu'à un moment, je fumais vraiment beaucoup d'héroïne.
Ça veut dire qu'avant, quand vous fumiez 24 kétés, toute votre vie n'était tournée que vers la recherche de drogue et la drogue. C'était plus une vie, ça.
Avant, j'étais beaucoup plus grosse, ça, ce n'est pas mon corps. Mais à force de fumer, je suis devenue comme ça, toute maigre. À un moment, je fumais pour environ 28 000 shillings, 13 euros par jour, alors que je dépensais à peine 2 000 shillings, 1 euro pour manger.
Et votre enfant, comment il va ?
Maintenant, ça va, il va bien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant, je l'emmenais toujours avec moi dans le camp où je fumais. Du coup, il respirait la fumée toute la journée. Et il est devenu dépendant lui aussi, à un an. Il avait des crises de manque quand il ne sentait pas la fumée. Il avait de la fièvre, il n'était pas bien, comme s'il n'était pas vivant. Et quand il sentait la fumée, il bondissait et redevenait vivant. Donc c'était très compliqué. Des fois, j'arrivais au camp et il n'était pas bien, alors il fallait que je lui souffle la fumée dessus pour qu'il redevienne vivant. J'ai fait ça longtemps. Mais ma famille et les gens autour de moi ne trouvaient pas ça bien. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit de venir à Médecins du Monde pour avoir des conseils. Et là, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait plus faire ça, qu'il fallait laisser l'enfant dans un endroit sain. Et maintenant, c'est ce que je fais, il va beaucoup mieux. On s'est occupé de lui.
Comment vous envisagez l'avenir, personnellement, et puis quel est votre rêve ?
Ce que je souhaite maintenant, c'est me débarrasser de la drogue. J'en ai marre d'être esclave de l'héroïne, je vais être libre à nouveau.
Comme Fatouma, ils sont des milliers à s'injecter de l'héroïne dans les rues de Dar es Salaam. Ils sont souvent peu éduqués. 50% des toxicomanes n'ont même pas fait l'école primaire. Ils ignorent tout des risques liés à la consommation de drogue. Certains ne savent même pas ce qu'ils s'injectent dans les veines. Quant aux maladies transmissibles, comme le sida ou les hépatites, elles ne semblent pas être leur principale préoccupation. Ils ignorent presque toutes ces maladies. Et encore une fois, ce sont les femmes les plus touchées, car en raison de leur statut social, elles sont deuxième ou troisième sur la seringue. Et bien sûr aussi à cause de la prostitution. Environ 70% des femmes toxicomanes avouent s'être déjà prostituées, contre 6% pour les hommes. Alors face à ce constat alarmant, Médecins du Monde a donc lancé en 2011 un programme de réduction des risques dans le district de Temeke, un des plus pauvres de Dar es Salaam, en collaboration avec le ministère de la Santé tanzanien et la municipalité de Temeke. Mais faire accepter ce programme n'a pas été une mince affaire, car la distribution et l'échange de seringues sont interdits en Tanzanie. Retour sur des débuts compliqués avec Sandrine Pont, la coordinatrice générale du programme.
Au départ, il a fallu faire une lettre d'intention au ministère de la Santé. Et il y a eu une personne clé, docteur Joseph Mbatia, qui était au département de santé mentale, qui a vu, bien sûr, qui connaissait la réduction des risques à l'international et qui a vu l'intérêt de développer ceci en Tanzanie. Et donc, à partir de là, on a ensemble travaillé sur un mémorandum de coopération avec le ministère de la Santé et la ville de Temeke afin de mettre en place un projet pilote. Il fallait prouver, donc il fallait que Médecins du Monde à nouveau prouve au gouvernement, parce qu'on l'avait fait en France, on l'a fait ailleurs dans d'autres pays, il fallait à nouveau prouver au gouvernement en Tanzanie que notamment l'échange de seringues était possible et que la communauté justement allait l'accepter. C'était bien ça au départ, tout le monde nous disait il ne faut pas parler de réduction des risques en Tanzanie et l'échange de seringues, comme vous venez de le dire, est interdit, vous ne pourrez pas distribuer des seringues. Heureusement, il y a eu cette vision quand même au ministère de la Santé et on a eu le droit d'avoir un programme pilote et il était écrit noir sur blanc que Médecins du Monde pouvait faire de l'échange de seringues. Et bien sûr, surtout, former le personnel médical tanzanien et les ONG locales à faire ce travail par la suite. Donc, on comprenait bien qu'il y avait des tensions quand même et il fallait tout de suite s'assurer de la compréhension, que tout le monde puisse soutenir ce programme de Médecins du Monde pour qu'après il y ait continuité. On a expliqué pendant 2 jours à toutes les personnes qui devaient entendre le message. Donc on a appelé le préfet, on a appelé les membres du Parlement, du district d'intervention, l'équipe de coordination médicale, les chefs d'hôpitaux, les policiers, les commandants. Tout le monde est venu pendant 2 jours écouter Médecins du Monde, savoir quelle était la situation, parce qu'en fait il y avait un problème de méconnaissance et surtout on n'avait pas vraiment d'idée sur la réponse à apporter. Donc au bout des 2 jours, quand on a vraiment présenté ce que pouvait être la réduction des risques, le coût et l'efficacité de ces programmes, les personnes présentes ont dit « on est d'accord, allons-y, essayons le programme d'échange de seringues en Tanzanie ».
Aujourd'hui, le centre de médecins du monde est donc installé en plein quartier de Temeke. Il est ouvert 5 jours sur 7, de 11h à 17h, à tous les toxicomanes qui s'injectent la drogue. Le mardi et le jeudi sont également reçus ceux qui fument de l'héroïne. Ainsi, chaque jour, ils sont entre 80 et 150 à venir voir l'infirmière, demander des conseils, recevoir des nouvelles seringues ou tout simplement prendre une douche et laver du linge. Un moment de détente apprécié dans cette vie tourmentée. Visite des lieux avec Robert Okola, directeur terrain à Médecins du Monde.
On a fait une rapide évaluation suite à notre étude en 2009 et on s'est rendu compte que les injecteurs de drogue étaient les plus vulnérables aux infections, qu'ils étaient particulièrement touchés par le sida avec une prévalence vraiment importante. Donc on s'est dit qu'il fallait s'intéresser à eux en particulier, faire des sessions individuelles pour leur parler d'injections à moindre risque, des overdoses, des risques liés à l'usage de drogue. Et d'autres sujets comme l'adhérence au traitement puisque la plupart sont séropositifs et donc sous traitement ARV. On discute beaucoup avec eux. Et s'ils ont envie, ils peuvent consulter un psychologue, parler de leurs problèmes.
Alors là, on est dans les locaux de Médecins du Monde, justement, à Temeke, ce quartier populaire de Dar es Salaam. C'est un énorme bâtiment en béton, avec des petites cours à l'ombre, c'est assez agréable. Vous me faites le petit tour, donc qu'est-ce qui se passe quand les usagers de drogue viennent tous les jours? Qu'est-ce qu'ils font au début?
When we have a new plant,
quand une personne arrive ici pour la première fois, on doit savoir ses connaissances, voir son attitude, connaître sa façon de consommer. Donc ça, c'est l'évaluation le premier jour lors du premier contact. Ensuite, on lui présente le programme et là, il va voir l'infirmière qui lui propose de faire le dépistage pour le VIH, les hépatites B et C et les infections sexuellement transmissibles. Après les tests, s'il a besoin par exemple du vaccin contre l'hépatite B, eh bien on lui fait. S'il est séropositif, il est référé à un centre de santé où il sera prioritaire pour la prise en charge et tout au long de son suivi. Maintenant, si c'est un usager qui est déjà venu, il connaît la procédure et il sait les services auxquels il a droit. Ici, il y a une majorité de personnes qui viennent souvent. D'ailleurs, on les voit dans leur comportement. Pour ceux qui viennent depuis plus d'un an, c'est même flagrant. Ils connaissent tous l'injection sans risque, ils n'ont plus d'abcès ou très peu. Parce qu'au début, tous les injecteurs ont des abcès importants. C'est un gros travail pour l'infirmière. Mais au bout d'un an, les abcès deviennent de l'histoire ancienne. Généralement, quand les usagers arrivent, ils passent par cette porte et ils viennent directement à ce bureau voir cette dame.
Alors, je vais vous laisser vous présenter, madame.
Je suis Jacqueline Mouchi, travailleur social.
Donc là, vous êtes dans la salle d'attente, vous avez différentes cartes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces cartes, qui a droit à quelle carte ?
Ok, we have a ID card for beneficiaries.
Ce sont les cartes d'identité des bénéficiaires. Il y a les cartes blanches pour ceux qui s'injectent la drogue et ces cartes-ci pour les fumeurs d'héroïne. Tout est anonyme, donc on n'a pas besoin de leur nom, on a juste besoin de leur code inscrit sur la carte.
Alors là, je vois à côté de vous, il y a des petits sacs plastiques noirs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
Dans les sacs plastiques, il y a des kits avec des seringues.
Ah bah oui, c'est donc des seringues.
Dans ce kit-là, il y a 20 seringues, des ampoules de sérum physiologique pour l'injection. Il y en a 20 aussi. Il y a des compresses.
Pour désinfecter la peau avant l'injection ?
Oui, il faut qu'ils se le désinfectent. Et puis, il y a 3 préservatifs.
Donc ça, c'est le kit normal que vous donnez à chaque personne qui vient ici ?
Oui, c'est le kit normal qu'on distribue. Si je le donne à un usager et qu'il revient demain, là, je lui donnerai un autre kit de 5 seringues, puis après demain, encore un autre de 20, et ainsi de suite. Mais bon, ça dépend. S'ils en veulent plus, on leur en donne plus.
Oui, ça dépend de leur consommation, j'imagine. Merci beaucoup, thanks a lot.
Thank you.
Je vois, il y a l'infirmière qui m'appelle, je vais aller voir comment ça se passe en consultation avec l'infirmière. Merci beaucoup.
À santé.
Priorité santé, reportage.
Et aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie pour parler du programme de réduction des risques mis en place par Médecins du Monde en collaboration avec le ministère de la Santé tanzanien pour faire face à l'explosion des cas de sida et d'hépatite chez les usagers de drogue. Nous sommes toujours dans le centre ouvert dans le quartier de Temeke. Là, Igor Strauss a pu assister à une consultation avec l'infirmière du centre.
Là, donc là, vous êtes venu pour un abcès. Pourquoi est-ce que vous avez cet abcès ?
Je me suis fait mal et du coup, on m'a fait une piqûre anti-tétanos. C'est pour ça que j'ai cet abcès.
L'infirmière rigole. À quoi vous pensez ? Pourquoi ?
Parce que le vaccin anti-tétanos ne provoque pas d'abcès.
Pour vous, c'est dû à quoi ?
Il est venu me voir et il avait déjà une plaie importante. Il m'a dit que c'était un abcès. Mais ce n'est pas son traitement qui est la cause de cet abcès.
C'est un abcès assez important, là. C'est, la jambe est bien attaquée. Là, il y a toute la cheville qui est à nu, on voit la chair rouge, c'est impressionnant.
La plaie était très grosse, très sale et l'odeur très forte. On l'a mis sous antibiotiques, on lui a conseillé de bien manger, on a nettoyé la plaie et maintenant ça va mieux.
Et généralement, quels sont les principaux problèmes de santé pour lesquels les patients injecteurs de drogue viennent ?
Oh, il y en a beaucoup. Souvent, ils ont les veines très abîmées, des plaies importantes et des abcès. Certains ont même la gangrène, puis la tuberculose. Il y a beaucoup de patients tuberculeux.
Alors, monsieur, vous, ça fait combien de temps que vous venez ici ? Et comment vous avez découvert cet endroit ?
Ça fait longtemps que je viens. Un jour, dans la rue, on m'a parlé d'un endroit où l'on aide les toxicomanes. Et je suis venu.
Et vous venez souvent ici ?
Je viens tous les jours pour prendre une douche, laver mon linge, me soigner.
Et depuis combien de temps est-ce que vous vous injectez de la drogue ?
Ça fait 3 ans.
Et comment vous avez commencé ?
Je me suis séparé de ma copine. Après la séparation, j'ai fait une dépression, j'étais frustré. J'avais des idées noires et j'ai commencé l'héroïne.
Combien de grammes, combien de teki est-ce que vous vous injectez par jour ?
Je suis à 4 ou 5 kété par jour.
Est-ce que c'est un problème pour trouver l'argent, j'imagine ? Parce que 4 à 5 kété, ça fait 5000 shillings tous les jours, c'est beaucoup d'argent. Donc comment vous faites pour trouver l'argent ?
Trouver de l'argent, c'est difficile. Je fais toutes sortes de petits boulots pour gagner un peu d'argent. C'est vraiment un problème.
Et à part l'abcès ici à la jambe, comment ça va la santé ? Comment est-ce que vous allez ?
Ça va, mais je me sens faible. Je ne suis plus aussi fort qu'avant.
Est-ce qu'ici vous avez pu vous faire tester pour le VIH et les hépatites ? Et si oui, est-ce que vous connaissez votre statut ?
Oui, je me suis fait dépister, mais il faut que je refasse un test dans 3 mois.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des produits de substitution comme la méthadone, par exemple ?
Oui, j'ai entendu parler du programme méthadone. D'ailleurs, je compte vraiment le rejoindre prochainement parce que là, je n'en peux plus. Je suis fatigué de tout ça.
En plus de ce centre dans le quartier de Temeke, Médecins du Monde dispose d'un bus qui se déplace tous les jours dans un des 60 camps d'usagers de drogue répertoriés dans la ville de Dar es Salaam. Cela permet aux pères éducateurs de rencontrer les toxicomanes qui n'ont pas pu se déplacer, de leur fournir des seringues, mais aussi de nettoyer les camps. En effet, ces éducateurs sont aussi chargés de retirer toutes les seringues qui traînent. Celles-ci sont collectées au centre avant d'être détruites. Sachant que Médecins du Monde distribue 25 000 seringues par mois, ça fait, on l'imagine bien, un gros travail de collecte à réaliser. Alors restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes après le flash d'information. Nous parlerons notamment de ce programme Méthadone, un programme donc de substitution à l'héroïne qui a été instauré depuis peu par le gouvernement tanzanien dans 2 hôpitaux de Dar es Salaam. C'est un reportage d'Igor Strauss.